Tout simplement pour que les personnes présentes vous connaissent un petit peu, Luc, Daniel, je vous laisse vous présenter.
Merci Daniel.
C'est moi qui commence.
À l'audience, donc Daniel, en premier.
Ça marche, oui, bonsoir tout le monde. Je suis donc Daniel Martinigol, j'écris de la littérature de science-fiction pour les jeunes. Ça fait une vingtaine d'années que je publie des romans qui sont principalement destinés à des élèves de niveau collège. Il y en a qui sont pour certains un petit peu plus jeunes, qui peuvent être lus dès l'école primaire. Et puis les plus âgés peuvent être lus jusqu'au niveau du lycée. Et puis il n'y a pas d'âge, hein, aucun problème. Ça peut être lu aussi par des adultes. J'étais enseignante. J'avais donc un contact direct avec mon public en permanence. C'est peut-être un petit peu pour ça, d'ailleurs, que je me suis mise à écrire de la science-fiction pour jeunes, parce que j'avais du mal au début de mon enseignement, ça remonte bien loin, parce que je suis en retraite maintenant, à trouver des romans de science-fiction pour jeunes. Et donc, il y avait certains auteurs qui avaient déjà publié. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas moi? Après tout, j'ai essayé d'en faire un moi-même. Donc, ça a été mon premier roman, L'Or Bleu. Il est sorti en 1989. Et voilà, depuis, j'en ai publié à peu près 40.
Merci Daniel de nous être avec nous ce soir. Et donc Luc.
Oui, bonsoir, je m'appelle Luc Denis, je suis écrivain, je suis romancier, pas de science-fiction, vous verrez par quoi éventuellement je me rattache à la science-fiction par ailleurs. Et je suis professeur de scénario et de littérature, mais surtout de scénario à la Sorbonne et à l'Université de Bruxelles. Le scénario, au fond, c'est assez confortable pour quelqu'un d'être romancier dans sa pratique personnelle et professeur de scénario dans l'enseignement, puisque l'un s'adosse à l'autre et en même temps il y a une marge. C'est tellement fondamentalement, radicalement différent, c'est tellement deux matériaux absolument distincts. On peut dire pour faire court que la littérature c'est l'art du temps et le cinéma c'est l'art de l'espace. Puisque le cinéma ne sait pas produire du temps, le cinéma ne donne que du présent continu. Si vous avez besoin d'évoquer le passé au cinéma, vous l'évoquez soit avec des dialogues qui sont dits au présent, soit avec un flashback. Et qu'est-ce que c'est un flashback? C'est du passé qui est raconté au présent. Et ma pratique d'enseignant du scénario, qui n'est pas adossée sur une pratique personnelle de l'écriture du scénario, mais sur mon écriture romanesque, cherche évidemment toujours les champs du difficile, hein, parce que c'est facile. Un scénario devient intéressant quand il y a une construction, quand il y a une construction un peu acrobatique, quand le temps est détourné, quand la narration est détournée, quand les niveaux de récit s'enchevêtrent, etc. Et de ce point de vue-là, la science-fiction est une voie royale. Et très souvent, mes cours de scénario qui n'ont rien promis par rapport à la science-fiction, à l'anticipation, aux techniques, à la science, très souvent, mes cours trouvent, au fond, à s'incruster et à dire vraiment ce que peut l'art du scénario par le biais de l'analyse et puis éventuellement de la reconstitution de films de science-fiction. De ce point de vue-là, L'Armée du Doux Singe, par exemple, est un film magistral, parce qu'on apprend tout en comprenant comment se raconte l'Armée des Douze Singes, comment les niveaux de récit, comment le temps devient circulaire, puis disparaît, réapparaît, comment ce qui paraît être le présent est en fait le passé, le vrai temps étant le futur qu'on ne voit jamais, enfin, il y a plein de choses comme ça. Et Borges, l'écrivain argentin Borges, disait le roman policier crée des lecteurs subtils, et moi je pense que la science-fiction crée des spectateurs intelligents.
Merci.
Le champion d'intervenant ce soir, c'est vous. On va récupérer deux micros sans fil, et puis Rudy et Sylvain qui sont là vont pouvoir aussi vous les faire passer pour des questions un peu plus tard dans la discussion. Les micros sans fil, on ne s'en veut pas récupérer, ils doivent être là-haut. Bon, moi je vais récupérer. Déjà, je pense que vous avez la question.
Ça marche, pas de soucis. Donc je me tourne vers vous, Daniel. Très simplement, question très simple vis-à-vis de votre parcours. La religion a-t-elle une place dans la littérature pour jeunesse de science-fiction?
Oui, moi j'ai fait une part dans un de mes romans assez récemment. J'ai écrit avec mon co-auteur, parce que j'écris certains de mes romans en collaboration avec un autre écrivain qui s'appelle Alain Grousset. Et nous avons écrit un roman d'Uchronie, qui est sorti dans la collection, d'ailleurs, qui porte le même nom, Uchronie, chez Flammarion, où nous avons imaginé... Alors, je ne sais pas, peut-être que je devrais rappeler ce que c'est que l'Uchronie.
Ça serait bien.
Donc, l'Uchronie, c'est une branche un peu particulière de la science-fiction qui imagine qu'un point de divergence dans le passé a créé un présent différent. Donc, le premier roman, par exemple, de cette collection chez Flammarion est un roman écrit par Pierre Bordage, qui est un des grands auteurs de science-fiction en France. Et Bordage a écrit un roman qui s'intitule « Ceux qui sauront », où il a imaginé que le point de divergence, c'était l'assassinat de Jules Ferry, qui faisait donc l'école... Alors, ça enthousiasme absolument les gamins, ça. Inutile de vous le dire. Donc, l'école n'est pas obligatoire, mais que donc, on est dans une structure dans le présent, avec une école à deux vitesses. Et donc, bien sûr, ces héros sont des jeunes qui n'ont pas accès à l'enseignement et qui font tout pour parvenir à la culture, etc. Donc, d'où le titre « Ceux qui sauront ». Et nous, Alain et moi, nous avons décidé d'écrire un roman qui partirait de la grippe espagnole en 1918, en supposant que ce point de divergence allait créer une perturbation dans l'odorat humain. Le roman s'appelle « Sens interdit » à cause de ça, parce qu'il est sur le thème de l'odorat. Et donc nous avons essayé d'imaginer ce que pourrait être le présent à partir de cette modification de l'odorat humain, où nous avons désormais trois types d'odorants: odorant minéral, odorant végétal ou odorant animal. Plus personne n'est l'odorant absolu, sauf évidemment notre héros, qui lui est un odorant absolu, qui se cache de tout le monde parce que justement une branche religieuse devenue pratiquement sectaire, qui a repris la dénomination des flagellants d'antan, n'est-ce pas, domine le monde et par tous les moyens essaie d'éliminer tous ceux qui pourraient avoir l'odorat absolu, étant donné qu'ils ont considéré une bonne fois pour toutes que c'était un fléau envoyé par Dieu pour punir l'humanité de ses fautes. Et donc voilà, notre petit héros Matisse va être poursuivi à la fois par des laboratoires scientifiques qui veulent savoir pourquoi il a cette possibilité de tout sentir, et surtout par les méchants flagellants qui essaient par tous les moyens de le tuer. Voilà. Alors donc là, on est dans une approche très dure, dictatoriale, enfin bon, de la religion, qui fait qu'on tient à éliminer absolument l'empêcheur de tourner en rond qui va aller contre ce dogme institutionnalisé depuis l'après-guerre de la Première Guerre.
Et en plus, pour le coup, la science s'oppose à la religion, si j'ai bien compris.
Oui, bien sûr, voilà, parce que évidemment, le héros est récupéré, si j'ose dire, par une charmante jeune fille, parce que si on veut intéresser les jeunes, il faut qu'il y ait aussi une histoire d'amour, bien sûr. Et cette petite scientifique qui s'appelle Anne-Marianne va vivre plein d'aventures avec lui. Mais bon, il y a certaines scènes qui nous ont beaucoup amusés à écrire. C'était pas toujours facile non plus, parce que il fallait aussi qu'on ait des données scientifiques assez précises sur les raisons pour lesquelles l'odorat pouvait être encore perturbé à notre époque. Et bon, voilà, on s'est beaucoup renseigné, on a beaucoup travaillé. Et quand on est à deux comme ça pour travailler sur un projet de cette envergure-là, c'est un bon soutien, parce que quand l'un est découragé, l'autre dit « mais si, ça marche ». Ou quand l'un prend un peu la grosse tête, l'autre dit « oh, tu sais, là, j'ai rien compris ». Donc le travail en collaboration sur un projet comme ça, mais on a écrit, Alain et moi, beaucoup de romans ensemble, et c'est vrai que notre collaboration est toujours très fructueuse, très sympathique.
Est-ce qu'il y a l'occasion dans les romans jeunesse comme ça d'aller loin sur le sujet de la religion, d'aller dans le mystique? Est-ce qu'on peut considérer que la jeunesse a assez d'éléments pour approcher, pour aller presque toucher tout ce qui est philosophie et puis religion, ou est-ce qu'il faut rester dans quelque chose d'assez...
On reste quand même dans le ludique, dans le distractif. Enfin bon, on essaie de leur donner des atouts, des éléments de réflexion, mais on ne peut pas être trop didactique, c'est pas possible. Mais l'essentiel, en fait, c'est que lorsqu'un adolescent referme le livre et qu'il lui reste une certaine interrogation. Hein. Je pense que si on arrive à obtenir une interrogation de la part d'un jeune lecteur, c'est déjà le but est atteint. Quoi. Enfin, notre objectif, c'est souvent ça, c'est de les amener à réfléchir. De toute façon, la science-fiction est déjà une littérature qui amène à réfléchir. Mais en plus, dans un roman jeunesse, si on les amène à se poser des questions, à avoir un autre regard sur le monde, on n'essaie pas du tout de... Enfin là, dans le sens interdit quand même, hein. On n'est pas tellement gentil avec les méchants religieux. Mais bon, on essaie de leur donner des points de départ pour se forger une opinion. Hein. C'est ça, on ne peut pas non plus... imposer. La raison pour laquelle beaucoup d'enseignants étudient certains de mes romans, c'est justement ça, c'est que ça permet d'avoir des points de discussion, des amorces de réflexion pour les jeunes.
Et donc cette religion est-elle, en tout cas pour élargir un peu sur la littérature, vous semble-t-elle toujours d'un point de vue négatif, ou on peut aussi l'avoir sur un ton plus positif?
Est-ce qu'on peut sauver la religion quand on est auteur ou scénariste?
Je sais pas, Luc. Est-ce qu'on peut sauver la religion?
J'ai quand même envie de répondre à la question générale de la science-fiction et de la religion comme point de départ. Il y a deux remarques qui me paraissent évidentes. Dans notre vie, dans notre monde, sur cette planète, sans la médiation de la science-fiction, je veux dire, telle qu'on l'expérimente dans notre vraie vie, la religion est incroyablement présente. Je ne dis pas la pratique religieuse dans nos familles, c'est encore une autre question. Mais on peut dire que sur les 7 milliards d'habitants de la planète, le nombre de gens qui, d'une manière ou d'une autre, ne sont pas religieux est insignifiant. Hein. C'est-à-dire, on est, en gros, sur une planète totalement religieuse à un titre ou à un autre. Quand j'étais gamin, on parlait de l'athéisme communiste. Mais s'il y a bien quelque chose qui était à mes yeux l'archétype de la religion, c'était une société qui sacrifiait l'individu à la collectivité, qui sacrifiait le présent au futur, qui pratiquait la réunionite, l'annulation. Ce sont des choses profondément religieuses. Nous sommes sur une planète où, sur les 7 milliards d'habitants, on peut dire que, même s'ils ne le savent pas, la plupart des gens sont religieux. Il y a une certaine façon d'être de gauche ou d'être de droite qui est une attitude religieuse et pas une attitude rationnelle. Ça, c'est la première chose. Donc, en gros, tout est religieux, sous un masque ou sous un autre. Et limiter la religion aux gens qui s'attribuent un titre religieux en disant « moi, je suis très protestant ou très judaïque ou n'importe quoi », c'est fragmentaire. La religion est une attitude mentale qui est très, très généralisée. D'autre part, la science-fiction, pour revenir maintenant, est très à l'aise avec les questions religieuses parce qu'elle décrit les mœurs de sociétés imaginaires, sous une autre planète, dans une autre époque, dans l'avenir, etc. Et elle le décrit souvent, avec ses codes, avec ses conduites, comme des variations de la religion. Combien de films n'avons-nous pas vu, où des explorateurs arrivent sur notre planète, où des gens voyagent dans le temps et arrivent dans une autre époque, et découvrent des conduites, des rituels, des rapports au sacré, qui sont... sous l'apparence sociologique, qui sont des conduites religieuses. La plupart des films de science-fiction qu'on peut voir, enfin, La Guerre des Étoiles, avec cette obsession de la force, de la force noire, de la force blanche, des rapports, etc., c'est une représentation religieuse du monde. Hein, pas catholique du monde, pas protestant du monde, pas judaïque du monde, mais religieuse du monde au sens plus large. Donc il n'y a peut-être pas de science-fiction qui ne soit pas hantée par la question religieuse. Après, évidemment, si la question est de savoir s'il y a des films qui sont plus exactement en train d'explorer une pratique religieuse que nous reconnaissons comme telle dans notre propre vie, ça, c'est un peu différent. Mais là, le manichéisme des affrontements entre le bien et le mal, c'est déjà une posture profondément religieuse. Donc, je ne suis pas sûr que, avant de pouvoir rentrer dans le détail, et quelle religion, et y a-t-il des livres de science-fiction qui explique le catéchisme, ça, ce serait une autre question. D'abord, déjà, le bien, le mal, l'au-delà, ce temps-ci, le néant, l'éternité, ce sont des questions qui sont... L'éternité, c'est un dispositif science-fictionnel absolu, et en même temps, c'est une expérience métaphysique absolue. Donc, c'est vraiment... la science-fiction est peut-être quelque chose qui est à l'aise avec toutes les catégories de l'esprit, qui est peut-être moins réductrice que d'autres gens, moins réductrice peut-être, je dis ça sous bénéfice d'inventaire, que le roman policier, qui a une dimension plus clairement sociologique, prosaïque, représentation directe du monde et des rapports de force politique et autres, hein, pour pouvoir représenter le néant, l'esprit, la fantomatique, les autres formes de vie que celles que nous avons connues, et la possibilité, au fond, éternelle, qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est la mort, qu'est-ce que c'est la survie. Et y a-t-il un autre monde que ce monde que nous pratiquons?
On peut donner un peu la parole un petit peu.
On a une question là-haut. Question.
Annabelle, s'il te plaît.
Bonsoir. En fait, vous démontrez aisément qu'il y a des liens entre la science-fiction et la religion. Pourtant, on pourrait penser que, en fait, grâce à la fiction, c'est la science qui s'oppose à la religion. Moi, je voudrais vous interroger sur les liens qui peuvent exister entre la science-fiction, qui, apparemment, enfin, pour moi, est plutôt basée sur la science, donc qui s'oppose à la foi, et plutôt basée sur la fiction, qui s'oppose à la vérité, donc qui, a priori, est frontalement opposée à la religion, malgré les exemples que vous avez cités. Donc, quels sont les liens entre la science-fiction et le conte, qui, lui, est beaucoup plus religieux, puisqu'il a plus un aspect mythique? Et donc, quel est le lien ou quelle est la différence entre le conte, qui est plus ancien, et la science-fiction, qui est plus moderne?
Je ne veux pas monopoliser le micro en répondant, donc si vous souhaitez, je peux dire quelques mots, si vous le permettez tous. Le fait que je pense que la science-fiction soit à l'aise avec une représentation du monde qui a une dimension religieuse d'une manière ou d'une autre, n'empêche pas que ce que fait la science-fiction, et en ce sens, la science-fiction est quelque chose de récent. Je fais une parenthèse, je ne suis pas convaincu qu'on puisse, sérieusement parlant, appeler science-fiction un roman de Jules Verne ou de Wells. Je pense que un des secrets de la science-fiction, c'est qu'il y a science-fiction à partir du moment où on ne se pose plus des questions techniques, où on suppose qu'elles sont résolues. Tant qu'on se dit comment faire pour envoyer un homme dans la Lune, on est encore dans la fable traditionnelle. Quand on se dit maintenant les astronefs fonctionnent dans la galaxie et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on découvre, qu'est-ce qui arrive à l'espèce humaine ou à d'autres espèces, on est dans la science-fiction. En ce sens, pour moi, la science-fiction a moins de 100 ans, peut-être pas beaucoup moins de 100 ans, mais moins de 100 ans. Bon. Ce qu'elle a apporté, la science-fiction, au sens moderne du terme, c'est de pouvoir considérer que les difficultés scientifiques sont résolues et qu'on explore l'âme humaine à travers une autre manifestation de notre présence humaine dans les techniques. J'ai l'air de répondre un peu en oblique, mais c'est important, je veux dire. On va pouvoir travailler sur des choses qui ne sont pas encore tout à fait présentes, mais dont le lecteur sait que ça fait partie de ce que Valérie appelait l'implex de l'être humain, c'est-à-dire ces possibilités à venir, qui ne sont pas encore explorées, mais qui sont déjà là, qui ne sont pas une pure prospective. La régénération du corps, l'immortalité biologique, la transplantation cérébrale, au même titre que l'hyperespace, le voyage à la vitesse de la lumière, ou des choses comme ça. Et au fur et à mesure que la science-fiction se spécialise et se devient plus subtile, elle peut commencer à intégrer aussi des éléments réellement scientifiques, pas des prospections de rêves par rapport à la technique et à la science, mais des expériences, des connaissances scientifiques. On sait, par exemple, pour prendre un exemple simple, on croit savoir en tout cas ce qui distingue fondamentalement l'hominien, enfin l'être humain, ce qu'on appelle en science homo, des mammifères évolués, et on pense savoir aujourd'hui que c'est le cervelet. Que le cervelet permet de, et seul l'être humain peut faire ça, permet de lisser le rapport au temps. Les animaux, même évolués, ils sont sans arrêt dans du temps morcelé. Ils oublient, au fond, enfin, ils gardent certains acquis, mais ils oublient les concepts qu'ils apprennent. On peut faire des choses très pointues à un chimpanzé, mais dans l'instant. Six mois après, il faudra recommencer en partie l'expérience. Les êtres humains lisent par la mémoire, mais aussi par une espèce de perception continue de la temporalité et de leur conscience d'être dans la temporalité. tous ces éléments-là, qui sont réellement scientifiques, parce qu'il n'y a pas que les machines qui sont scientifiques, il y a d'autres connaissances des sciences de l'homme, tous ces éléments-là nourrissent réellement la science-fiction. Pour moi, et je termine à ça, et je sais que c'est toujours des réponses obliques, on est sinueux, on ne peut pas régler des problèmes aussi vastes en quelques mots. Pour moi, j'ai eu le choc de la science-fiction, avec un auteur qui est mort depuis 30 ans maintenant, et qui n'est donc plus dans la modernité, avec un auteur que vous connaissez tous, qui est Philip Dick, parce que Philip Dick, pour la première fois, il me parlait, pour la première fois historiquement, quand je l'ai lu dans les années 70, il me parlait de l'être humain dans une espèce de totalité. La paranoïa, qui est très forte, les caméras généralisées qui observent tout, le trucage des apparences, les robots déguisés en hommes, la vie courante et en même temps esclavagiste sur la Lune et tout ça, était devenu, alors qu'on était encore en train de la regarder avec des yeux scientifiques, était devenu des catégories de la vie au même titre que le whisky ou les petites blondes dans les romans noirs des années 30. Et d'une certaine manière, quand je disais, c'était pas un paradoxe, quand je disais la science-fiction rend intelligent, c'est parce qu'elle peut réellement faire entrer dans ces catégories du récit, parce que c'est pas, la science-fiction, c'est pas se pencher sur les sujets, c'est les brasser par la forme de l'histoire. Elle peut vraiment faire entrer dans les catégories du récit des choses aussi difficiles que le génome de l'être humain ou des choses comme ça, et ça devient des éléments narratifs moteurs. Et ça, je trouve que c'est une force énorme. Que la science-fiction peut réellement s'appeler science-fiction parce que la science y a sa place comme élément narratif. Voilà, en quelques mots rapides, et sans doute ne diriez-vous pas exactement la même chose.
Je voulais juste revenir sur la notion de conte. Vous avez parlé du conte, le conte, on est dans le merveilleux avec le conte. Il y a des choses qui sont acquises, on a des faits, on a des choses comme ça. On est plus proche de la fantaisie, en fait, là. Je pense, avec le conte. Et pour vous donner un exemple, moi, quand je faisais, par exemple, travailler des jeunes en atelier d'écriture sur le conte, on n'avait pas de difficultés. Il y avait les codes, c'est très codifié, donc on leur donnait les codes du conte et ils arrivaient à produire quelque chose qui ressemblait vraiment à un conte. Quand je passais après à l'écriture de science-fiction, c'était très fréquemment problématique à la fin. C'est-à-dire qu'ils envisageaient un monde différent, ils étaient effectivement en train de... Le propre de la science-fiction, c'est de construire du réel dans quelque chose qui est irréel. Et ils arrivaient bien à construire des choses, et à la fin, souvent, ça se terminait par « Et alors, soudain, il se réveilla, ce n'était qu'un rêve. » Et moi, je passais mon temps à essayer de leur apprendre à assumer leur imaginaire. C'est-à-dire en leur disant non, il ne se réveille pas, non, il est là, il est bien dans le futur, non, il a bien vécu ça, ou elle a bien vécu ça, si c'était une petite fille qu'ils avaient choisie comme héroïne. Elle disait, assumons l'imaginaire, c'est là, on est dans la science-fiction, il y a quelque chose qui est, c'est sûr, on est dans le merveilleux, mais à un moment donné, la science-fiction, on appelait ça le merveilleux scientifique. À partir du moment où on a ajouté le mot scientifique au mot merveilleux, on était dans un désir de rationalisation, il fallait que ça soit, il fallait y croire. On est dans un pacte entre le... Alors il y a le pacte entre le spectateur et le cinéaste, il y a le pacte aussi entre le lecteur et l'auteur. Ce pacte de lecture, il faut qu'il fonctionne. On est dans une relation qui fait que quand on commence à écrire un roman de science-fiction, ou quand on commence à le lire, on sait que c'est faux quelque part, on sait que c'est pas vrai. Mais il faut y croire, il faut que l'auteur apporte les éléments pour qu'on se fasse piéger, en fait. Donc moi, j'ai travaillé pendant des années avec des jeunes à essayer de leur faire comprendre que on était certes dans des choses qui n'étaient peut-être pas obligatoirement parfaites, rationnelles, etc., mais que bon, on a aussi le droit d'avoir un imaginaire et de l'assumer. Et donc c'était une démarche qui était intéressante en atelier d'écriture très souvent. Bon, on s'éloigne de la religion là.
Non, justement, à ce moment-là, est-ce que parmi vos élèves et parmi les jeunes avec qui vous avez travaillé sur ces ateliers, Est-ce que c'est arrivé que finalement le problème de certains qui sont très religieux ou qui ont en tout cas une culture religieuse avait plus de mal à s'approprier la science-fiction? Est-ce qu'il y a eu des est-ce qu'il y a eu un lien qui s'est créé entre des jeunes qui qui pouvait avoir une culture religieuse et que vous ne pouvez pas accepter ça, ou est-ce que finalement ça ne se posait pas plus
le problème est souvent lié aussi à la culture fondamentale du jeune. J'ai eu plus de problèmes avec des élèves maghrébins, par exemple. J'ai un de mes romans, Les abîmes d'outre-mer, qui est traduit en turc. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de demander à des jeunes d'origine turque ce que signifiait exactement le titre de mon livre dans leur langue. Et un jour, j'ai eu droit à quelque chose qui était très très intéressant, puisque une jeune fille m'a dit, eh bien, c'est traduit par « sans monde dans le futur ». Parce qu'en fait, c'est une confédération planétaire de 100 mondes, effectivement, dans ce roman. Donc le titre français, Les abîmes d'outre-mer, évoque des vaisseaux spatiaux de la planète Outre-mer, des vaisseaux s'appelant les abîmes. Donc le titre en turc n'a absolument rien à voir, 100 mondes dans le futur, si ce n'est que le traducteur a gardé la notion des 100 planètes. Et puis un jeune homme était à côté, qui était lui aussi d'origine turque, et il a dit « Non, c'est pas ça, c'est 100 mondes cachés ». Alors elle s'est retournée vers lui et lui a dit « Tu sais bien que c'est la même chose ». Alors donc j'ai demandé un peu d'explication et la jeune fille m'a dit « Mais vous savez madame, le futur » et elle a fait le geste de mettre ses deux mains dans ses yeux et lui il a dit « Tu vois bien, c'est sans monde caché ». Donc c'était très intéressant de voir que pour eux le futur était quelque chose qui n'existait pas, que l'on ne pouvait pas voir et que surtout quelque part on n'avait pas la possibilité, enfin pas, presque pas le droit de voir. Hein. Et donc voilà, c'était une notion très concrète de la culture qu'ils possédaient tous les deux, qui faisait que cette approche du futur était différente de celle qu'on pouvait avoir. Ça, c'est un exemple très concret. J'espère que je réponds à peu près à la question.
On peut redonner la parole au public si quelqu'un a une question.
Bonjour. Oui, je voudrais savoir si vous avez connaissance d'un mouvement qu'on pourrait éventuellement... je ne sais pas si ça existe simplement. Est-ce que ça existe de religion-fiction, comme voilà, il y a la science-fiction qui se base effectivement sur l'évolution de la science et qu'est-ce que ça pourrait nous amener dans le futur, etc. Il y a la politique-fiction qui est plus basée sur les questions de société. Alors, est-ce qu'il y a des romans qui essayent d'imaginer comment la religion pourrait évoluer dans le futur et qu'est-ce que ça pourrait apporter à l'espèce humaine ou à d'autres espèces extraterrestres, je ne sais pas.
Le premier titre qui me vient à l'esprit, c'est Dune. Avec cette approche, c'est pas vraiment de la religion-fiction, enfin c'est quand même un roman qui met en scène une approche très particulière aussi de, religion-fiction en tant que telle, je vois pas trop.
Un élément de réponse oblique, comme très souvent quand on est dans des questions aussi vastes, c'est que au-delà du fait que les histoires de science-fiction peuvent rencontrer des faits religieux, et Dune en est sans doute un cas, il y a quelque chose dans l'hypothèse prospective de la science-fiction qui elle-même est un sentiment religieux, ou dans la captation de l'autre monde, la conquête de l'inconnu, qui est un ressort de la science-fiction, il y a une attitude qui me semble positivement religieuse. Pour moi, ma grande expérience religieuse au début de mon adolescence, c'est pas les cours de religion que j'ai pu avoir par ailleurs, dont il reste des éléments peut-être plus culturels que réellement métaphysiques, c'est l'année 1969. L'année 1969, où, pendant les vacances, s'est passée cette chose extraordinaire que tous les gens de l'hôtel où j'étais, et sans doute dans tous les hôtels et dans toutes les villes autour, il y avait sur les écrans, ou comme je le faisais moi, en écoutant la radio et en regardant le ciel, il y avait le fait que cette espèce d'apostasie qui était aussi mystique que technique de l'engin qui décollait et qui allait se poser sur la Lune. Il y avait un chroniqueur de génie, dont je me souviens à travers les ondulations du temps, hein, qui était le chroniqueur d'une station qui s'appelait Europe 1, qui existe peut-être toujours. La station Europe 1, mais le chroniqueur, lui, il est mort depuis longtemps, il s'appelait Albert Ducrot, Et Abbé Ducrot, c'était non seulement un grand, grand chroniqueur scientifique, mais c'était aussi un enthousiaste religieux de la conquête scientifique. Et donc, il faisait monter comme un grand prédicateur l'espèce d'énorme attente des auditeurs, comme ça. Est-ce que cette première entreprise pour sortir l'homme de l'attraction terrestre et pour le mettre, on sait bien que c'est pas tout à fait un autre astre, mais enfin, pour le mettre hors du champ de la Terre, est-ce que ça allait réussir? Et il trépignait, et à ce moment-là, à un moment donné, il a crié, ça y est, l'homme est sur la Lune, et les gens dans l'hôtel regardaient le ciel et pleuraient. Et ça, c'était réellement, je vous raconte pas ça pour comme une anecdote personnelle de mon enfance, mais c'était réellement la religion adossée à la science, et qui disait au fond, dans une expérience qui a pu être vécue à ce moment-là, qui disait quelque chose qui est, je pense, dans la perspective scientifique, parce qu'elle est exploratoire, elle est ouverte, elle ouvre un champ du possible beaucoup plus vaste que si on est dans le réalisme direct d'un roman psychologique à la Balzac, par exemple. Donc c'est aussi un apport. Et je crois qu'on peut lire, avec un grand sentiment réellement religieux, pas au premier degré, on peut lire beaucoup d'œuvres de science-fiction en sentant là, en sentant cette portée, c'est que la science-fiction, notamment, pas tous les livres, pas tous les films et pas tout le temps, remue en nous quelque chose qui serait une appétence métaphysique. Je crois que c'est peut-être... Je ne veux pas saboter le traduisant autrement le thème qui est évoqué, mais je crois que c'est plus fondamentalement ce qui peut connecter la science-fiction à la religion que le fait de savoir si certains livres décrivent des pratiques religieuses, ce qui est le cas aussi, mais qui est peut-être déjà presque un second degré par rapport à cette question-là, par rapport à cette ouverture et le fait que la science-fiction monte, enfin une partie de la science-fiction monte parce que c'est toujours aller vers le futur, aller vers d'autres planètes, aller traverser la galaxie, entrer dans le néant du trou noir, peut-être en sortir dans un univers différent ou toute autre chose. Hein. C'est une sorte d'apostasie narrative qui a le sentiment religieux pour machine.
Je vois qu'on a donc une autre question à droite.
Oui, moi c'était surtout pour me demander si quand la science-fiction invente des religions entre guillemets nouvelles, parce qu'on a d'une certaine manière inventé réellement comme la scientologie.
Oui, ça c'est clair.
Dans les romans, il me semble que c'est très souvent lié à un changement d'état du monde, c'est-à-dire que tout l'aspect religieux nouveau vient d'une donnée nouvelle. Donc, je pense à la croisière sans escale de Brian Atkins, où les gens vivent dans un immense vaisseau spatial, et du coup la religion qui est liée à ça, ou un cantique pour les Hobbits, où tout l'aspect religieux, qui est fondamental dans le livre, est lié au culte voué aux documents scientifiques anciens. Donc je crois qu'il y a ça, parce que sinon la religion en elle-même, elle a une place ou pas. Dans le livre, je ne pense pas que ce soit tellement ça, mais c'est plutôt une réutilisation de religion qu'on connaît plus ou moins pendant les années, plus la musique qu'autre chose. Je crois que c'est très souvent l'utilisation d'un état nouveau du monde qui change les données. Et puis il y a une relation très souvent aussi importante entre la science et la religion dans de nombreux romans de science-fiction, qui est le moment où la technoscience et le pouvoir technologique et politique lié dérivent vers une mainmise, y compris sur la pensée des gens. Je pense à des choses bêtes comme le meilleur du monde, d'Aldous Huxley, où effectivement il y a même un moment la parodie du mariage religieux anglo-saxon, où quand on visite la nurserie où sont élevés les bébés, qu'on programme pour leur avenir, on dit ce que la science a fait, nul ne peut le défaire. Un peu comme le mariage. On connaît tous dans les films anglo-saxons, parce que Dieu, on ne connaît pas ça vraiment ici, je pense. Donc c'est. Voilà. Et je pense que ça, c'est très souvent, effectivement, dans l'esprit, il y a tout ça. Parce que dès que la science devient un peu fasciste, automatiquement, elle attrape les avis de la religion, quoi, pour avoir une autorité plus forte.
Daniel ou Luc aussi. Daniel.
Ben, tout ce qu'il a dit, c'est très juste.
Et on a des interlocuteurs très bruyants.
Moi, je voulais juste dire qu'il y a très très peu de textes humoristiques qui traitent du sujet, mais il en existe un. C'est une toute petite nouvelle de Jean-Claude Duniac dans son anthologie Déchiffrer la trame, publiée à la Talente. Ça fait 2 pages et demie, je crois. Ça s'appelle LDIK. Et ça montre un jeune missionnaire qui part à l'autre bout de la galaxie pour aller évangéliser des extraterrestres. Et c'est absolument désopilant parce qu'il a une cathédrale gonflable avec lui. Et le texte est un petit bijou, vraiment. Et ça se termine avec l'hypothèse quand même que ce pauvre petit missionnaire peut être complètement perdu, là, sur cette planète extraterrestre. Et il est dit que dans le manuel, parce qu'en fait la nouvelle c'est un petit manuel, son intention, il se tranquillise quand même, il ne mourra peut-être pas de faim très vite parce que le Jésus est comestible.
pour enchaîner, on pourrait rappeler aussi que un livre qui est considéré comme par essence un livre religieux, sans doute beaucoup de choses à dire à ce propos, mais qui indubitablement est considéré comme tel, qui est la Bible, véhicule notamment des aspects de science-fiction. L'Apocalypse, je ne veux pas réduire la lecture de l'Apocalypse à un regard science-fictionnel sur lui, mais enfin, cet aspect de science-fiction existe. Il y a une certaine façon, d'autre part, sans même parler de la dimension presque bouleversement du monde qui est en filigrane dans l'Apocalypse, c'est clair que le déluge est typiquement un thème science-fictionnel, ou en tout cas qui a été repris par la fin d'un monde, les derniers survivants, les rares nageurs sur le gouffre de l'infini, ce sont des éléments science-fictionnels. Ce qui amène aussi à se dire que, comme au fond les mythes sur lesquels nous fonctionnons, les grands ressorts romanesques que nous avons en nous, la dramaturgie, a beaucoup d'antennes dans le passé, que nous continuons à écrire des histoires qui ont des structures communes avec les tragédies grecques ou avec les pièces de Shakespeare ou d'autres choses, que la Bible est non seulement un pourvoyeur de thèmes de science-fiction potentiels, mais fournit aussi des schémas mentaux qui sont de l'ordre de la science-fiction. Et qu'on pourrait relire le livre de Job ou des livres aujourd'hui ressortis du grand corpus de la Bible, comme le livre d'Enoch, avec ce regard-là, et on découvrirait au fond que beaucoup de nos livres modernes de science-fiction, ou aussi de fantasy ou de fantastique, même si on sent un peu du lieu, du domaine, ont leur présence dans la Bible. La Bible est un grand réservoir de thèmes, notamment d'anticipation ou d'apocalypse, ou de fin du monde, ou de ressourcement, ou de découverte d'une autre réalité, ou, ce qui est science-fictionnel aussi, du fait que la liberté des hommes est manipulée par une conscience plus grande qui serait la conscience divine, ce qui est quand même un de nos fantasmes science-fictionnels.
On a encore le temps pour une dernière petite question avant d'attaquer la pause. Une là-haut. Attrapez-la. Laissez passer.
Bonsoir. Je risque de diviser les foules un peu avec ma question, mais ça me fait tourner les ménages depuis le début. Et quand vous dites que la religion est très présente, je ne suis pas entièrement d'accord. Je pense que la religion est un sujet polémique qui divise les foules et donc est passé sous silence, et que la vraie religion de nos jours, dont on va parler, c'est le capitalisme.
Je comprends bien que vous dites ça, et d'une certaine manière, c'est un point de vue qui a sa vérité. Mais à vrai dire, ce que je voulais dire, c'est que la réalité d'un fait religieux quelconque dans la conscience des gens est beaucoup plus répandue qu'on ne le dit. Mais si vous voulez dire que le discours sur la religion est très répandu à pignon sur rue, là, je suis assez d'accord avec vous. L'extraordinaire silence que les médias ont par rapport à la religion, où on ne désigne au fond les gens par leur religion que quand on veut donner une catégorie sociologique. Les musulmans de France, on ne parle pas de la réalité dans leur cœur, dans leur pratique, on parle d'un certain statut socio-ethnique ou que sais-je, d'une partie de nos concitoyens. Donc, ce qui m'apparaît à la fois, c'est que je crois que c'est en partie ça que vous voulez dire, que médiatiquement, au niveau du sujet, la religion est un élément relativement tabou, ou en tout cas relativement caché, ou relativement peu évoqué, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il qu'il n'y ait pas une réalité religieuse d'un titre ou d'un autre beaucoup plus répandue que simplement ceux qui revendiquent leur appartenance ou leur pratique à une religion donnée. Tous les gens qui se diraient athées, pour prendre un exemple simple, ici dans cette salle ou ailleurs, au fond, si on examine leur rapport à des tas de choses, on se dirait, mais peut-être que ce n'est pas absolument de l'athéisme, c'est juste une non-appartenance confessionnelle précise, mais il y a un dispositif religieux, psychologique, qui est sans doute plus large et plus diffus dans leur esprit. C'était plutôt ça, mais d'une certaine manière, votre remarque permet de recentrer ce que j'avais dit un peu rapidement tout à l'heure.
En tout cas, on peut constater que si effectivement la religion peut être un thème sensible et divisé, les auteurs de science-fiction ont souvent utilisé la science-fiction, le fait qu'ils puissent écrire, justement, transposer leurs histoires sur d'autres réalités, d'autres planètes, ils ont souvent utilisé ça pour parler de la religion. Et, on retrouve beaucoup la religion, on l'a beaucoup dit, dans les œuvres de science-fiction, autant en livre qu'en film. En tout cas, en programmant cette soirée, on a finalement trouvé pas tant de films science-fiction qui traitaient de la religion. Ça a été assez compliqué de trouver des films dont c'était le centre du sujet, dont tout était basé. Donc en fait, il y en a eu, et puis après on va plus les diffuser ce soir, mais ça c'est d'autres questions de mécanique de programmation. Mais on peut dire qu'effectivement, dans le cinéma, ça a été assez compliqué de trouver des films qui traitaient de ça. Donc après, c'est un peu ce qu'on a fait sur le montage d'extraits qu'on va revoir ensuite à la fin, c'est qu'il y a pas mal de beaucoup de films qui en parlent, évidemment, donc on va retrouver dans les extraits pas mal de références à la religion qui sont centraux dans les films, mais trouver un film qui traite de ça exclusivement, de science-fiction et de religion, c'était très compliqué.
Et bien donc, nous allons passer à la pause. Un très grand merci, beaucoup d'applaudissements pour Lucas et Daniel Arsenidol, qui nous accompagnent. Et je rappelle donc que vous pouvez les croiser tout simplement dans le hall pendant cette pause, puisque leurs livres sont notamment à disposition. Enfin, à